RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, c'est fait. Enfin, hier, la guérilla des FARC et le pouvoir colombien ont signé, au cours d'une cérémonie à Carthagène, l'accord de paix qui met un point final à un conflit d'un demi-siècle. Un point final ou presque, puisque les Colombiens se prononceront ce dimanche par référendum sur l'accord. Et puis ensuite, 8000 à 12000 guérilleros commenceront à rendre les armes. RFI est allé à la mi-août rencontrer ces hommes et ces femmes, prêts à laisser la guerre derrière eux dans un de leurs campement dans la jungle, la guérilla colombienne aux portes de la paix. Je vous propose d'écouter ou de réécouter ce grand reportage de Zoé Berry.
Dans le petit port fluvial de Frasquillo, dans le nord-ouest de la Colombie, des Indiens Embera Catillo en pagne de couleur se pressent pour prendre le canoë qui les mènera à leur village. Les soldats plaisantent avec les serveuses d'un troquet dont la sono égrène des airs de ranchera. Frasquillo est le dernier poste militaire sur le barrage d'Urra. Au-delà, rien d'autre qu'une étendue d'eau qui reflète le ciel nuageux, des maisons de bois disséminées dans les montagnes et une jungle dense où a évolué ces dernières années la guérilla colombienne des FARC. Le groupe de guerrilleros qui nous reçoit n'est qu'à quelques heures de canot moteur du port, sur une des rivières boueuses qui alimente la retenue d'eau. Lorsque nous arrivons, la nuit tombe. Un aide-de-camp distribue les tours de garde à une douzaine d'hommes. Un peu plus loin, dans la forêt, deux autres petits groupes s'apprêtent à se coucher. Dans la nuit, les guerrilleros ne seront dérangés que par les cris des oiseaux nocturnes. Depuis la suspension des raids aériens concertés entre le pouvoir et les forces armées révolutionnaires de Colombie à Cuba il y a plusieurs mois, puis l'annonce de la paix, les hommes du Front 58 n'ont plus à tendre l'oreille à la moindre alerte. Dans le campement qui s'éveille, le bruit est même permis. Une petite radio a été allumée sous la tente où sont stockées d'abondantes réserves de nourriture. Une jeune guerrillera, Tania, lave dans le ruisseau son linge qui, nouveauté depuis la fin des survols, pourra sécher au soleil.
Si tout se passe comme prévu, nous n'allons plus avoir besoin de cet uniforme. Nous allons avoir une autre vie où on ne lavera pas ce genre d'habits. En attendant, on continue à laver les uniformes.
Un groupe électrogène ronronne et recharge les ordinateurs flambant neufs sur lesquels la guerrillera Sol Angel consulte les dernières nouvelles envoyées par les négociateurs de la guérilla et du gouvernement colombien. C'est elle qui nous explique le déroulement d'une journée dans cette période qui n'est pas encore la paix, mais déjà plus la guerre.
La mañana hacemos formación de
le matin, on passe la troupe en revue. À 6 heures, les chefs se réunissent. C'est le moment où on analyse ce qui se passe. Si des fautes se sont présentées, s'il y a des choses à corriger, on les examine tous ensemble. Puis les activités se poursuivent, on fait des travaux matériels dans le campement. Mais en ce moment, notre principale activité, c'est d'étudier les documents qui nous arrivent de la Havane. Nous sommes chaque jour informés et c'est sur cette base que nous travaillons.
À deux pas de là, des bancs de planches servent depuis plusieurs semaines de salle de classe pour préparer la démobilisation. Assis sur l'un d'entre eux, le commandant Ruben assure que ses hommes sont prêts à rendre les armes.
Quand les dialogues ont commencé, il y avait des doutes parce que beaucoup de négociations avaient échoué par le passé. Et on se disait qu'il allait arriver la même chose, que ces discussions allaient bloquer à un moment donné parce que le gouvernement allait s'entêter, comme toujours, à essayer de gagner, à définir un vainqueur et un vaincu. Il voulait que nous nous rendions. Mais heureusement, les choses ont changé grâce à notre organisation, à l'expérience du peuple colombien et à la communauté internationale qui nous aide. Nous voulons tous la paix. Nous en sommes convaincus. La guerre ne résout rien. La guerre n'est pas facile. Elle n'est ni pour les enfants, ni pour les fous. Elle est dure. Et logiquement, la paix va apporter le progrès à notre pays, alors que la guerre n'apporte que désolation et mort. Dans mon groupe et dans tous les groupes de cette région, 100% des gens font le pari de la paix et sont optimistes.
Cet optimisme est d'autant plus compréhensible que la guerre dans cette région de Colombie, occupée par de grandes plantations de bananes, n'a pas été choisie. Durant plusieurs décennies, les petits paysans ont été pourchassés par les propriétaires terriens et les escadrons de la mort paramilitaire. Pour se débarrasser d'une gauche qui exigeait des réformes sociales, ces groupes ont brûlé des villages et massacré des familles entières. Le commandant assure qu'il n'a pas eu d'autre voie que prendre le chemin de la guérilla pour sauver sa peau.
Je me suis enrôlé très jeune, je vivais avec mes parents, j'étais étudiant. J'ai vu des syndicalistes des plantations de bananes se faire tuer par la police. À l'époque, on les appelait la Mano Negra. Tout ça vous effraie. Vous vous dites, je vais grandir et le plus sûr, c'est qu'ils me tueront à mon tour. Alors autant qu'ils me tuent les armes à la main. Moi, à l'époque, je n'avais pas d'idée politique très claire. Je ne savais pas grand-chose sur le mouvement guérillero, les raisons de la lutte. On y pensait juste comme une mesure de sécurité personnelle. Voilà ce qui a fait que je suis devenu guérillero.
Comme lui, 80% des combattants de son groupe ont été victimes du conflit avant d'en devenir acteurs, Sol Angel.
Cela fait 15 ans que je suis guérillera. À l'époque où je vivais à Dabeiba, en 1997, il y avait beaucoup de violences paramilitaires. C'est à ce moment-là qu'ils ont tué ma mère, qu'ils l'ont fait disparaître. Cela m'a décidé. Et il y avait aussi beaucoup d'injustices. Je crois que nous pouvons dire que nous avons été humiliés. Ils nous ont menacés. Moi, je n'étais qu'une enfant. Sincèrement, je ne savais rien de la guérilla. Au début, j'ai eu du mal, parce que j'avais très peur des oiseaux qu'on entend chanter la nuit, ou de l'obscurité. Je n'étais pas habituée à tout ça, à vivre comme ça dans la jungle. Je ne connaissais pas les animaux qu'on voyait, j'ai appris à cohabiter avec eux.
Enrôlés volontaires dans cette guerre, ces jeunes combattants n'en ont pas moins connu toute la dureté. En plein processus de paix, Sol Angel a frôlé la mort dans un des tout derniers bombardements aériens qui a tué un commandant de la région.
Il y a des moments où on pense vraiment « je ne vais pas y réchapper ». L'un de ceux-là a été le bombardement de Racobo, le 31 janvier 2013. J'étais dans ce groupe, je faisais partie de sa garde personnelle. On a entendu l'hélicoptère, mais il était loin. Il s'est rapproché, et c'est tout. Je ne me rappelle de rien jusqu'au moment où je suis revenue à moi. J'ai essayé de me lever, mais mon pied ne réagissait pas. J'ai cru que j'avais perdu cette jambe. J'étais étourdie, je voyais des étincelles, une grande lumière et j'entendais le silence tout autour. J'ai été prise de panique et j'ai commencé à crier. Je m'en suis sortie avec des blessures, une à cette jambe, de l'autre côté j'ai deux doigts de pied en moi et j'ai des éclats d'explosifs dans ce bras. Ce genre de choses parfois te poussent à continuer. On tue un de tes chefs ou un compagnon qui sont pratiquement ta deuxième famille.
Au milieu des combats, la vie aura aussi parfois triomphé d'une façon inattendue. Certains ont eu des enfants avec leurs compagnons, souvent confiés aux grands-parents. Selon Louis, qui se balance dans un hamac de cordes, rien que dans ce front régional seraient nés 40 enfants, dont les deux qu'il a eus avec une guérillera.
J'en ai un qui a 11 ans. L'autre, c'est une fille qui va bientôt avoir 9 ans. Ma grand-mère garde le premier, ma mère garde ma fille. Ils sont déjà venus nous rendre visite ici, bien sûr. Et maintenant, si les conditions s'y prêtent, raison de plus. Ils vont pouvoir venir ou peut-être qu'on pourra aller les voir à n'importe quel moment pour tout leur expliquer, qu'ils sachent ce que nous sommes. Ce serait terrible qu'ils ne comprennent pas et qu'ils nous voient avec une arme, un uniforme et pensent « ces gens-là doivent être méchants ». Il faut qu'ils connaissent notre position et sachent qui nous sommes et nos raisons. Et puis si tout se concrétise, il va falloir travailler, se battre pour ces enfants, pour leur éducation, pour leur avenir. Ça nous remplit d'espoir.
Malgré l'envie et les sourires que fait naître l'idée de la paix sur les visages, les guérilleros sont conscients que le chemin qu'il leur reste à parcourir est difficile. Renoncer aux armes, dans une région où évoluent toujours des bandes criminelles, descendantes des groupes paramilitaires, ne va pas de soi. Tous les processus de paix antérieurs se sont soldés en Colombie par des vagues de représailles. Le commandant Ruben espère que les combattants échapperont cette fois-ci à cette spirale de violence.
C'est la grande question que beaucoup de gens se posent. Y a-t-il suffisamment de garanties ? Le gouvernement s'est engagé à contrôler et à combattre les paramilitaires. Tout le monde sait que le phénomène paramilitaire est un appendice de l'État et c'est avec l'État que nous sommes en train de négocier. Le pouvoir doit donc rappeler ses subordonnés, si réellement ce sont des subordonnés. Nous comptons là-dessus. Le gouvernement s'est engagé devant la communauté internationale, avec nous, à combattre ces paramilitaires. Nous espérons que cet accord sera respecté. En ce moment, les paramilitaires colombiens s'intéressent plus à la coca et à la drogue qu'aux combats qu'ils ont menés entre 1996 et 1998 pour exterminer les FARC. Aujourd'hui, ils sont surtout là pour le trafic.
Et que deviendront les guérilleros une fois l'accord de paix entériné? La société colombienne exige d'eux qu'ils reconnaissent leur tort. L'État attribue au Front 58 une série d'attaques sanglantes contre la police, l'armée et la population civile. Si le gros de la troupe a négocié à Cuba son amnistie, les chefs régionaux seront entendus par un tribunal de justice transitionnelle. Des peines de 5 à 8 ans de restriction à la liberté, sans prison, sont prévues pour ceux qui parleront. Ruben y est disposé.
Nous regrettons que dans ce pays où nous aurions pu vivre comme des frères, nous ayons dû longtemps nous entretuer pour enfin comprendre que nous faisions fausse route. Et aujourd'hui, nous pouvons enfin le dire, nous allons nous serrer la main plutôt que nous tuer. Tout indique que nous sommes vraiment sur le bon chemin pour vivre en paix tous ensemble et laisser enfin derrière nous ces haines qui ont généré la violence. Nous allons dire la vérité sur ce qu'il s'est passé. Bien sûr, il y a eu des morts. Nous allons dire la vérité sur tous ces faits.
La plupart des guérilleros ont encore du mal à exprimer des regrets pour les crimes commis. Pour Sol Angel, le pardon doit être accordé dans les deux sens.
Se repentir, je ne crois pas. Parce que même si on le regrette, le mal est déjà fait, n'est-ce pas? Mais oui, on est désolé et beaucoup de choses qui sont arrivées au cours du conflit nous font mal. C'est vrai que parfois des innocents ont été victimes de la guerre et on préférerait que ça ne se passe pas comme ça. Nous n'avons pas voulu faucher ces vies, mais nous étions armés et dans les affrontements, si on ne se défendait pas, c'était nous qui mourions. Il y a des choses que l'on doit faire dans une guerre, c'est comme ça. Nous ne tuions pas pour tuer ou parce que nous en avions envie. Nous sommes tous Colombiens, enfants d'un même peuple, fils de père et de mère qui souffrent eux aussi. Et nous devons maintenant changer d'attitude. Moi, au début, je ne voulais pas, je ne pardonnais pas, je ne me sentais pas capable de vivre avec celui qui avait tué ma mère. Et puis on commence à réfléchir. On ne va pas oublier ce qui s'est passé, mais on peut peut-être essayer de vivre ensemble.
Vivre ensemble et surtout pour les combattants. Refaire leur vie loin de la troupe, dans une société qui est loin de les attendre les bras ouverts, représente un véritable défi. Dans le campement, tous obéissent aux ordres d'un commandant. Les tâches sont soigneusement planifiées et laissent peu de place à l'initiative personnelle. Si certains s'imaginent cultiver un petit lopin de terre avec leur famille retrouvée, en général, le grand saut leur fait peur. Tania.
Bien sûr qu'on veut revoir notre famille. Qui ne veut pas voir sa famille? On veut être avec eux, faire avec eux ce que nous n'avons pas pu partager à cause de la violence et parce que nous avons pris les armes et suivi ce chemin. Mais ça va être un grand changement et ce sera sans doute difficile. On n'est plus habitué et il faudra s'adapter. De toute façon, passer de ce qu'on est actuellement, guérillero, à paysan, ça va être dur. Mais il faut le faire, on est là pour changer.
Après avoir passé 15 ans ici, il va falloir s'adapter. Parfois, je m'imagine ailleurs, en ville, et je pense aux voitures, au bruit, quelle horreur! Qu'il faille payer l'eau alors qu'ici, c'est gratuit. Ici, vous êtes réveillés par les oiseaux, là-bas, par les voitures. Cette tension que l'on subit dans les villes, vous l'avez vécue. Ici, c'est paisible, on respire un air pur. Dehors, non. Ici, il y a beaucoup de choses qu'on s'interdit de faire ou qu'on ne peut pas faire par sécurité. Désormais, cela va être plus facile. On va pouvoir poursuivre les rêves que nous avions et qui ont parfois été suspendus pour toutes ces raisons. Moi, je rêve d'étudier, de devenir professionnel en informatique, d'apprendre beaucoup de choses, apprendre de ceux qui sont au dehors, apprendre de vous tous.
Beaucoup se voient aussi poursuivre leur combat ensemble dans l'arène politique, car comme l'expliquent Juan et Debbie Paez, la guérilla colombienne n'est pas née sans raison.
Les Colombiens croient que le principal problème de ce pays, c'est qu'il y ait une guérilla. Or, il se trouve que le problème en Colombie, ce ne sont pas les guérilleros, mais les inégalités sociales. Et les responsables, c'est l'État qui n'a jamais écouté les paysans, ni ceux qui défendent les droits de tous les Colombiens.
Ici, personne ne va dire « Ciao, on s'en va ». Non. C'est maintenant que nous allons travailler pour que la paix se stabilise dans le pays, pour gagner l'appui du peuple par la voie politique. Nous voulons que les gens se rendent vraiment compte de ce que nous sommes en réalité. Il faut que nous ayons le droit d'accéder à la presse, à tous les médias de communication, pour que le peuple comprenne que notre organisation a des propositions sérieuses pour obtenir une transformation sociale. Pourquoi devrions-nous nous dissoudre? Ça ne va pas se passer comme ça. Nous sommes disposés à faire le travail nécessaire. Vous l'avez constaté, il y a une pauvreté extrême. Les droits à la santé, à l'éducation sont bafoués. Ce sont tous ces combats que nous devons mener.
Après 50 ans de conflits qui ont fait au moins 220 000 victimes, les rancœurs sont vives. Avant de retourner à ses tâches quotidiennes, Sol Angel souhaite laisser à ceux qui voteront un message de réconciliation.
Ce que nous voulons réellement, c'est que cette guerre s'arrête, parce que nous souhaitons que la Colombie soit en paix. Mais si nous voulons réellement la paix, nous devons faire un effort pour soigner ces blessures, qui sont profondes. Et il faut que nous acceptions ce qui s'est passé, tous ensemble. Parce que la paix n'est pas seulement pour quelques-uns.
La guérilla colombienne aux portes de la paix, un grand reportage de Zoé Berry, réalisation Mathieu Salabert.
Bonjour Zoé Berry.
Bonjour.
Alors il ne reste plus qu'une étape, le référendum sur cet accord de paix ce dimanche. Est-ce que c'est gagné d'avance?
Alors les Colombiens seraient prêts à donner leur oui à la paix avec une marge plus ou moins ample selon les sondages, mais rien n'est sûr. Et surtout, le pouvoir craint une faible participation, ce qui enlèverait de la légitimité à cette consultation. Certains électeurs pensent que tout a déjà été décidé et ne voient pas l'intérêt de voter. Une partie de l'opinion rejette aussi les bénéfices, notamment juridiques et politiques, qui ont été accordés aux combattants pour obtenir leur démobilisation. C'est le cas parmi les classes moyennes des grandes villes, mais aussi dans certaines zones rurales qui ont souffert de la guerre. Elles craignent ce qui pourrait arriver après la démobilisation, des risques accrus de délinquance notamment. Elles craignent aussi que la paix coûte cher et frappe leur porte-monnaie. Enfin, beaucoup refusent d'imaginer un guérillero au Congrès ou dans la course politique. Or, selon l'accord, les guérilleros, ils seront représentés au Congrès dans une première phase comme observateurs, puis ils auront un minimum de sièges garantis durant une période donnée.
Et qu'en est-il de la justice alors dans cet accord?
C'est une des questions que se posent les électeurs indécis ou décidés à voter contre l'accord, mais aussi ce qui fait débat au sein de la guérilla. Jusqu'au tout dernier moment, il y a eu des questions sur ce sujet. Concrètement, les simples combattants bénéficieraient d'une amnistie assez large et les commandants n'iraient pas en prison s'ils passent aux aveux. Les peines prévues pour ceux qui parleront sont de 5 à 8 ans de restriction à la liberté. Ceux qui refusent de s'y plier pourront écoper de peines de 20 ans de prison. La question reste, jusqu'où diront-ils la vérité? La justice colombienne aura-t-elle les moyens d'examiner chaque cas? Quel sera le pouvoir et la marge de manœuvre de la commission de la vérité qui doit être créée? A priori, on l'a entendu, la guérilla est disposée à faire la lumière sur certains faits. Elle a déjà commencé à le faire, notamment avec les familles d'otages.
Et quels sont, pour les guérilleros, les espoirs réels de réinsertion?
C'est difficile. La société qui les attend est loin d'être prête. Beaucoup de jeunes guérilleros sont issus des familles les plus pauvres de Colombie. Certains n'ont même pas fini l'école primaire. L'accord de paix prévoit des aides mensuelles durant 2 ans, l'équivalent d'un salaire minimum colombien et un coup de pouce supplémentaire pour ceux qui doivent terminer leur scolarité. Des terres seront aussi distribuées, mais les autorités craignent que certains jeunes combattants rejoignent les factions armées qui subsistent en Colombie, comme la guérilla guévariste de l'Armée de Libération Nationale, ELN. Bien que minoritaire, elle n'a pas commencé à négocier sa démobilisation. Malgré des annonces en ce sens, beaucoup espèrent que des pourparlers, des nouveaux pourparlers donc, débutent après le référendum, ce qui solutionnerait au moins une partie du problème.
La guérilla colombienne aux portes de la paix, votre grand reportage Zoé Berry est à retrouver, à réécouter sur RFI.fr.